Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir. Gros plan sur le Parti Socialiste Français dans notre émission d'aujourd'hui. D'ici 20 minutes, les 7 candidats à la primaire de la gauche vont débattre pour la dernière fois avant le premier tour de dimanche. Parmi eux, 4 socialistes, Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon et Manuel Valls. 4 candidats qui briguent la présidence de la République mais dont les sondages nous disent qu'ils peinent pour l'instant à s'affirmer comme des candidats sérieux à l'Élysée. Si le premier tour se tenait ce soir, et si on croit les sondages, Manuel Valls, Vincent Peillon, Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon pourraient arriver derrière Marine Le Pen, François Fillon, mais aussi Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. De quoi susciter chez certains une grande crainte, on en a un dans le studio, celle de la mort d'un parti socialiste divisé après le quinquennat de François Hollande, une crainte formulée telle quelle en septembre par Jean-Marie Le Guen, député PS.
Je pense que la structure parti socialiste, ça a été dit d'ailleurs en son temps par Manuel Valls, par Jean-Christophe Cambadélis, c'est une structure usée. Et je pense que pour partie, il est déjà mort, si vous voulez.
Un PS mort pour les uns, mais dont certains représentants, il est vrai, réussissent à mobiliser. On le voit depuis quelques semaines. Benoît Hamon remplit les meetings. Et hier, Arnaud Montebourg a manifestement fait fort lors de sa réunion parisienne. Alors le Parti Socialiste survivra-t-il au quinquennat de François Hollande, à la primaire et aux vagues Macron et Mélenchon? C'est notre sujet du jour. Bienvenue.
RFI.
Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Bruno Gassiot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, scénariste, producteur et vous êtes, et c'est pour ça que vous êtes là ce soir, l'auteur d'un livre au titre évocateur, on va y venir dans un instant, Les 100 derniers jours du Parti Socialiste, un livre paru aux éditions Les Liens qui Libèrent. En face de vous, Karim Bouamran, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Alors Bruno Gassiot, je le disais, vous signez un livre qui est plutôt dur pour vos amis socialistes, le ton est direct, cash, diront certains, dès les premières ligne, vous évoquez un ami agonisant, un titre aussi très évocateur, les 100 derniers jours du PS, une mort inéluctable, dites-vous. Alors pour vous, c'est plié, le PS va disparaître.
Il va disparaître et il doit disparaître. C'est bien pour la démocratie française. Mon point de vue là-dessus, c'est que ce parti est devenu inutile en menant une politique qui était la même que ses concurrents. Et la clarté du débat politique et du champ politique français, il gagnerait à ce qu'on ait une gauche qui soit une gauche de gauche, un centre qui soit ce que aujourd'hui est Monsieur Valls, Monsieur Macron et Monsieur Borloo qui pourrait travailler avec eux, Monsieur Bayrou, et une droite, et qu'on ait nous électeurs à choisir. Et à perdre des élections même. On a le droit de perdre une élection, c'est ça la démocratie, les idées n'ont pas triomphé, on fera mieux la prochaine fois. Ce qui s'est passé dans le dernier quinquennat, et il y a une maladie, je fais ça par maladie, il y a une maladie que j'ai appelée la libéro-droito-encéphalite dégénérative, qui va de François Mitterrand à François Hollande. C'est la maladie des deux François. Entre ces deux François, il y a eu une dégénérescence complète de ce parti. Et aujourd'hui, il est parfaitement inutile. Et nous, électeurs, qui sommes des électeurs de gauche, on a voté pour ce parti parce qu'on nous disait « il faut voter utile ». Il faut être utile. Attention, si vous ne votez pas pour ce parti-là, vous aurez soit la droite dure, soit le FN. Et aujourd'hui, j'ai à la fois la droite dure et le FN. Ça fait 30 ans qu'on vote utile, et en votant utile, on l'a rendu inutile.
Alors, on va venir effectivement à ce qui explique pour vous la mort nécessaire de ce Parti Socialiste. Karim Bouamran, j'imagine que vous n'allez pas me dire qu'il doit mourir, mais est-ce qu'il va mourir, ce Parti Socialiste ?
Bah, tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je voulais exprimer mon respect à Bruno Gassiot, parce que j'ai génération en dessous de lui, et j'ai été baigné avec l'oreille le son des guignols de l'info, mais sur le sujet de ce soir, sur la question politique, je pense que Bruno Gassiot se trompe. Il se trompe parce que l'analyse de départ est déconnectée sensiblement de la réalité. Lorsqu'on dit que la politique du Parti Socialiste a été menée est une politique de droite, sur le plan des décisions, sur l'éducation, sur le service public, sur la santé, sur le redressement des comptes publics, c'est une politique de gauche. Ça, c'est le premier point. Pour parler concret, pour parler du terrain, un département de la Seine-Saint-Denis comme le mien, une ville populaire, Saint-Ouen comme la mienne, moi je vois toujours ce que c'est une politique de droite. La droite a défait sur le plan du logement, sur le plan
des,
alors, sur le plan
là, de la vous contestez les explications
sur la politique aux associations qui œuvrent dans les quartiers. Le Parti Socialiste n'est pas tributaire d'une élection. Le Parti Socialiste n'est pas tributaire d'un sondage. Le Parti Socialiste, c'est plus de 100 000 adhérents, c'est
alors, justement, 30 présidents de département. J'allais y venir, parce que là, vous contestez la manière dont Bruno Gassiot explique, mais il y a quand même une hémorragie des adhésions. Vous l'avez cité, le chiffre, 110 000 de gens qui sont à cotisation, juste qui ont payé leur cotisation.
Premier parti de gauche.
Un jour de cotisation.
Un jour de cotisation. Et à Paris, par exemple, depuis l'élection de François Hollande, on a quasiment une division par deux.
110 000 adhérents, premier parti de gauche. On fait 23% au régional. Ça fait depuis 20 ans qu'à chaque élection, on nous dit on est mort.
Donc vous dites, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, le Parti Socialiste va bien.
Mais attendez, il faut être soit complètement désinformé, soit...
On est le premier parti de gauche
aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire, c'est que là où il y a une déconnexion de la réalité et là où l'analyse est un petit peu trop parisianiste centrée. Moi, tous les jours, je vois ce que c'est la valeur ajoutée du Parti Socialiste sur le terrain. Lorsqu'on a la généralisation du tiers payant. C'est une valeur ajoutée pour les classes populaires. Lorsqu'on a Nicolas Sarkozy qui supprime 80 000 postes et que la gauche, en termes pour l'éducation nationale, et que la gauche en recrée 60 000, moi je vois les effets concrets sur le terrain. Lorsqu'il y a la loi SRU qui passe de 20 à 25% en termes de logement social, c'est pas une politique de droite, c'est une politique de gauche. Alors oui, effectivement, il y a un problème. Il y a un problème parce qu'aujourd'hui la gauche est fragmentée et malheureusement, ce type de discours, la musique qu'on fait jouer depuis 3-4 ans qui consiste à dire le Parti Socialiste est mort, le Parti Socialiste est mort, concourt à diviser la gauche et on va dire les seuls bénéficiaires, ce sera la droite extrême et l'extrême droite.
Alors Bruno Gassiot, qu'est-ce que ça vous évoque de voir cette défense du Parti Socialiste? Vous vous dites, il refuse de voir une réalité ou vous entendez quand même cette défense du bilan? Effectivement, c'est pas une politique de droite. Sur l'éducation, par exemple, on a fait des choses en matière de santé, généralisation du tiers payant, ce sont des mesures ancrées à gauche.
C'est la démonstration de ce que j'écris, en fait, c'est... la droite, c'est pas pareil que nous, alors que la droite, c'est un peu pareil quand même. Alors évidemment, il y a des petites différences. C'est ce que Frédéric Lordon appelle la droite complexée, le Parti Socialiste. Mais quand on arrive au pouvoir en disant on va séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt, parce que c'est le seul moyen, en fragmentant les banques, de faire en sorte que la finance folle ne dirige plus le monde, et que 3 semaines après l'arrivée au pouvoir, on ne le fait pas, on renie. Et puis après, on gère l'économie de marché telle qu'elle est. Alors, on fait des petites choses à la marge qui ont l'air d'être de gauche. Mais la droite les a faites aussi.
Je suis désolé. La droite a supprimé 80 000 postes. En matière d'éducation.
Ça vous le ferez pendant la campagne en face de gens de droite.
Mon sujet, c'est celui-là en tant qu'élu de terrain. C'est la réalité. C'est la réalité. Lorsqu'aujourd'hui, on a toute une génération qui a été sacrifiée parce qu'il y a eu 80 000 postes qui ont été supprimés et quand derrière, on est obligé de redresser les comptes de la France et créer 60 000 postes, c'est une réalité.
Vous aurez 3 mois pour le faire pendant la campagne électorale. Mon sujet, moi, c'est pas ça.
Je suis pas dans une dynamique électoraliste, je suis dans une dynamique politique.
Mon sujet, moi, c'est pas ça du tout. Mon sujet, c'est qu'il y a... vous parlez de la gauche qui se fragmente à cause de gens comme moi. Non, elle est déjà fragmentée, la gauche. Elle a été fragmentée par Manuel Valls, qui fait 5% à une primaire et qui dirige le pays avec des idées dont 95% de votre parti ne voulait pas. Donc il a dirigé le pays avec cette politique-là, qui était quand même plus à droite que celle de Montebourg, par exemple.
Mais Bruno Gassiot, quand Karim Boimran nous dit il y a eu quand même des grandes lois de gauche pendant ce quinquennat et que vous lui répondez, si j'ai bien compris, la différence entre la loi sur les banques et le grand discours mon ennemi c'est la finance. Quels ont été vos déclics?
Il y a eu le CICE par exemple que on nous présente comme un truc qui marche très bien, qui ne marche pas, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas, ça a augmenté les marges des entreprises, les grandes entreprises ont fait de la marge en plus, ils ont distribué des dividendes. Est-ce qu'ils ont embauché? Non. L'ANI, ça va pas, l'accord national interprofessionnel, ça a foutu les gens dans la rue.
La loi
travail, ça a mis des gens dans la rue pendant 6 mois. Même la moitié du parti, beaucoup de députés du parti n'étaient pas d'accord avec cette loi. C'est passé à coup de 49-3. Pourquoi? Parce que Monsieur Valls voulait que ça se passe comme ça. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi El Khomri? Elle renverse l'article 2, l'inversion des normes. Ça veut dire que chaque travailleur va se retrouver face à son patron, dont il dépend, pour discuter avec lui. Combien vont gagner? Il y en a très peu qui vont gagner. Le patron fera ce qu'il veut. La protection des employés a disparu. C'est même pas ça que je leur reproche. Moi, ce que je leur reproche, c'est de ne pas avoir, pendant au moins une décennie, essayé de comprendre ce que serait une activité salariée dans les 10 ans qui viennent, compte tenu de la productivité très forte qu'il y a aujourd'hui, compte tenu du nombre d'individus sur la planète.
Mais est-ce que ça, on l'a pas justement, parce que c'est un peu la raréfaction du travail, les mutations du travail, c'est justement des choses qu'on voit, dont on parle dans le débat de ce soir, on va probablement réen parler, Benoît Hamon a des propositions là-dessus, Arnaud Montebourg aussi, est-ce que ça montre pas quand même qu'il y a aussi un renouvellement de la gauche, et est-ce que ça dit pas aussi Karim Bouamran que finalement la gauche, enfin le Parti Socialiste, puisque ce soir on parle du Parti Socialiste, a effectivement besoin d'une clarification, peut-être d'une scission, mais en tout cas d'une clarification sur certains sujets, comme vient de le dire Bruno Gassiot.
Et plusieurs choses. Sur les avancées du CICE ou de la loi El Khomri 2, la loi El Khomri 1, le Parti Socialiste, via Jean-Christophe Cambadélis, s'était exprimé contre. Ensuite, la 2... Il y a des avancées. Il y a eu des avancées sur le lien avec les syndicats, la relation avec les jeunes et la déconnexion.
Non mais on va peut-être pas refaire le bilan de la loi El Khomri,
sur votre question, est-ce que c'est caractéristique du Parti Socialiste d'avoir plusieurs lignes, de trancher sur plusieurs lignes? Mais j'ai envie de dire, c'est l'essence même du Parti Socialiste. Tous les 3 ans, il y a des congrès, il y a plusieurs motions. Des motions sociodémocrates, des motions plus à gauche, des motions qui mettent en avant d'autres philosophies politiques, toujours dans la matrice socialiste, mais ça c'est l'essence même du Parti Socialiste.
Mais quand on voit le succès aujourd'hui de la ligne bien plus à gauche de Jean-Luc Mélenchon, alors je sais bien que c'est difficile de parler des sondages alors qu'on les critique sans cesse, mais qui manifestement a une dynamique derrière lui, quand on voit aussi le succès d'Emmanuel Macron qui se situe plus à gauche, est-ce que ça montre pas quand même qu'il y a plus à droite, pardon, qu'il y a une appétence quand même pour un peu plus de radicalité d'un côté et de l'autre?
De quoi on parle? Mélenchon, ça fait un an qu'il est en campagne. Mélenchon, quand vous regardez, parlons des sondages, et faisons un peu d'analyse, on va dire, empirique, la gauche du PS, ça a toujours plafonné entre 10 et 12%. Si Mélenchon était si fort que ça, un, il aurait participé aux primaires, et deux, il serait à 20 dans les sondages. Concernant Macron, alors moi j'appelle Macron, c'est le subprime de la politique. Donc on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va atterrir. En attendant, Macron, il est exactement dans le même chiffre des sondages que le MoDem avec Bayrou il y a 5 ans, 18%. Donc il n'y a pas de phénomène Macron outre mesure. En revanche,
il y a des ralliements de la gauche, oui, de la gauche de gouvernement qui se prépare. Mais bon, là-dessus, vous dites
opportuniste. Simplement, ce que je dis, c'est que la question, est-ce que le PS doit trancher sur des lignes politiques? Mais ça sera l'heure du congrès. Bruno Gassiot évoquait la ligne de Manuel Valls. Oui, la ligne de Manuel Valls était différente de celle de Montebourg, de celle de Martine Aubry, de celle de François Hollande. Mais ça, c'est l'essence même.
Alors, le problème, et c'est ce qu'on dit aussi, c'est quand même que la primaire aujourd'hui, elle donne lieu, s'il vous plaît, pas en même temps. La primaire, elle donne lieu aujourd'hui à des débats. Chacun présente son programme. Il y en a 7, alors 4 du Parti Socialiste. Est-ce que le problème, c'est pas aussi la primaire ou alors qu'on a un vote très fragmenté? Alors, Bruno Gassiot, pourquoi?
Il y a le problème de l'inutilité du Parti Socialiste est posé même par François Hollande. François Hollande n'est pas le candidat du Parti Socialiste en 2012. Il est le résultat d'un vote, d'une primaire ouverte. Et donc, il est désigné par vote. Donc, il ne se sent pas du tout tenu par le Parti Socialiste. Voilà pourquoi il peut nommer quelqu'un comme Valls, qui fait 5% dans la primaire, parce qu'il n'est pas tenu par les conseils du Parti Socialiste. Ce n'est pas son parti. Il a été élu, il n'a pas été désigné. Donc il a
donc
fait
vous
en
vous y voyez
sorte...
pas une vertu quand même dans la possibilité de permettre de trancher entre
chaque
certaines
primaire,
lignes quand même. Imaginons Montebourg à 70%, Valls 5%, quand même il y aura un message clair, non?
Il y aura un message clair, oui. Mais
de ce soir ou
non, mais je dis ça comme ça parce que ma question c'est est-ce que ça n'a quand même pas une vertu?
La clarification nécessaire au paysage politique français passe par la disparition du Parti Socialiste.
J'ai du mal à comprendre. Moi j'ai du mal à comprendre.
Expliquer, c'est très très simple. C'est très très simple à expliquer.
Sur le plan philosophie politique pure, je vois pas en quoi la suppression, dans votre raisonnement, j'ai démontré que c'était que le Parti Socialiste, que ce soit avant, pendant ou après les élections, continuera à exister au regard de ce qu'il apporte. Pardon ?
Les militants continueront à exister.
Les militants et les élus, vous en faites quoi ?
C'est un parti d'élus professionnels.
C'est un parti d'élus ou de militants ? Faudrait savoir.
C'est un parti d'élus professionnels. Les militants se sont carapatés en grande partie dans toutes les associations qui font un boulot formidable en France et qui ne veulent plus entendre parler du Parti Socialiste.
Bah, non, mais c'est moi de vous dire, c'est inexact. Bah, ils sont 40 000 venez faire un tour chez moi, ils vous voir à Saint-Ouen, c'est inexact. Oui, en Seine-Saint-Denis, c'est inexact. Dans le 78, c'est inexact.
Bon, je crois que là-dessus, sur le constat du début de l'émission, on vous ne mettra pas d'accord. En revanche, sur la primaire, pour vous, est-ce que la primaire, c'est la primaire qui est en train de se dérouler, le débat qui commence dans maintenant 3 minutes, a des vertus? Est-ce que la primaire, c'était le bon exercice aujourd'hui? Est-ce que ça risque pas plutôt de diviser encore plus un pays qui est déjà complètement divisé, puisqu'au sein même des frondeurs, il y a deux groupes?
La primaire aura une vertu, c'est de mobiliser, un, le Parti Socialiste, dès le lendemain du second tour, et, on l'espère, la gauche entière. Après, et là je vous écoutais hier dans une radio, on va dire, concurrente, là on se rejoint.
Ami aussi, c'est possible.
Ami, oui, néanmoins ami. Tout va dépendre de la mobilisation. Il y a un mois, on nous disait que c'était la primaire des pauvres, du pauvre, qu'on n'allait pas dépasser les 600 000. Là, les sondages nous mettent entre 1,6, 1,7, voire 2 millions.
Et pour vous, si à partir de combien de mobilisation,
1,6. C'est 1,6 million.
1,6 million,
c'est bien. Au-dessus, c'est très bien.
Et est-ce que ça ne va pas aussi dépendre de l'ampleur de la victoire de celui qui remportera la primaire? Si on a 52 contre 48, c'est un petit écart. Est-ce qu'il va y avoir vraiment une unité derrière ou est-ce qu'il faut une...
Oui. Benoît Hamon l'a réaffirmé, Arnaud Montebourg l'a réaffirmé, Manuel Valls l'a réaffirmé. Évidemment, ça va se faire...
Hamon a quand même dit, je soutiendrai parce que j'ai signé la charte, mais de là à être porte-parole, faut pas déconner.
Ah oui, non mais bon... Donc,
oui, mais c'est
pas
un soutien.
Mais derrière,
à droite, on a l'ancien porte-parole de Juppé qui est devenu le porte-parole de François Fillon.
Oui, et qui a réussi à dire tout et son contraire en l'espace de 15 jours. Donc Benoît a paru. Donc là, il y a un minimum de cohérence. Donc là, derrière, que ce soit Benoît Hamon, que ce soit Manuel Valls ou que ce soit Arnaud Montebourg, ils se rangeront derrière le vainqueur. Et justement, ça nous mettra dans une perspective de remobilisation pour faire en sorte que en printemps prochain, on n'est pas la droite extrême ou l'extrême droite, mais encore une fois, tout va dépendre de ce que va faire Emmanuel Macron, parce que si Emmanuel Macron continue à jouer le trublion, effectivement, il peut œuvrer à fragmenter la gauche et surtout à nous empêcher la victoire au printemps prochain.
Alors je pose la question parce que je me dois de la poser, mais je crois que je connais votre réponse sur la question d'un éventuel désistement du candidat qui va sortir vainqueur de la primaire de la gauche en faveur d'Emmanuel Macron. C'est non pour vous.
Ouais. Le gagnant de la primaire du 29 janvier prochain représentera la gauche responsable, la gauche qui sera aux responsabilités. Emmanuel Macron n'est ni gauche ni droite, on ne va pas se ranger derrière Macron, quel que soit son score dans les sondages.
Alors Bruno Gassiot, je vous voyais ne pas être du tout d'accord sur la possibilité du succès de cette primaire pour vous.
Mais c'est pas une primaire, vraiment, il y a quatre ministres du gouvernement qui se tirent la bourre pour être désignés.
On a quand même des lignes qui sont très différentes.
Non, mais après, c'est les électeurs qui vont désigner le candidat. Et puis, ce candidat, il va aller au premier tour des élections. Au premier tour des élections, c'est les électeurs, encore une fois, qui vont dire où on le situe. Si il est par extraordinaire devant, alors, je remballerai mon livre et je remballerai mon...
On refera un débat
après. Et je fais le pari que ni M. Macron ni M. Mélenchon ne se rangeront derrière lui, même s'il est en tête. Si par hasard, il était loin derrière, alors il serait condamné à être le supplétif soit de M. Macron, soit de M. Mélenchon, parce qu'il ne pourrait pas faire autrement. Et donc, ce serait sa disparition. Dans les deux cas, c'est sa disparition.
Et alors vous, vous allez faire quoi dimanche? Vous allez aller voter?
Non, probablement pas.
Probablement pas, et si vous votiez, ce serait plutôt blanc.
Bah, c'est-à-dire que le président de la République lui-même ne va pas y aller, je peux pas faire moins.
Mais c'est quand même douloureux pour un électeur socialiste, non?
Oui,
j'imagine quand même. Il nous reste quelques secondes, mais j'imagine que c'est compliqué.
C'est douloureux quand on a été un compagnon de route pendant longtemps. Oui, c'est évidemment douloureux. Mais à un moment, quand quelqu'un, comme un parti, c'est un être vivant, un parti, va disparaître, alors il faut accepter ça et accepter une recomposition derrière.
Merci beaucoup Bruno Gassiot, auteur de « Les 100 derniers jours du Parti Socialiste » aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à vous également Karim Bouamran, merci. Porte-parole du Parti Socialiste. Merci aussi à Florence Ponce, à Quentin Bresson. On se retrouve lundi pour un nouveau débat. Bonne soirée.
RFI. Suivez la Coupe d'Afrique des Nations.